Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons changer de thématique, de sujet. Nous allons parler d'urbanisme. Bon, c'est un sujet qui est important. Il y a des élections qui vont se passer et on sait que ça conditionne beaucoup la vie du quotidien de tous les Français et des Françaises, bien sûr. Alors, dimanche 13 juin, il y a le matin une émission sur Europe 1 de Frédéric Taddei qui interviewe des personnalités et notamment des auteurs ou des universitaires qui ont écrit des ouvrages liés aux problèmes de la société. Donc il y a un interviewé qui s'appelle Pierre Vermerin, qui est une personnalité éminente, professeur d'histoire moderne contemporaine à la Sorbonne, Paris Panthéon Sorbonne, et il est notamment spécialiste du Maghreb. Bon, moi je ne suis pas spécialiste du Maghreb, donc je ne vais pas juger la qualité de ses ouvrages, et on peut lui faire confiance. Par contre, ce monsieur, qui effectivement n'est pas lié par justement ses compétences historiques, se mêlent d'urbanisme et vient d'écrire un livre qui est justement l'objet de la chronique, de l'interview de Frédéric Taddei. Et cet ouvrage qui vient de paraître s'appelle « L'impasse de la métropolisation ». Alors évidemment, on est loin de l'histoire du Maghreb. Et donc... cette impasse de la mondialisation, dans l'interview, on peut dire que ça commence par les idées reçues sur les personnes qui habitent en métropole et en ville et en augmentation croissante, pour reprendre ce qui est raconté la plupart du temps par les journalistes. Mais ce qui est un peu embêtant là, c'est que, et même c'est très embêtant, c'est qu'il s'agit d'un universitaire. Alors, que dit ce brave homme? Il dit, en 1900, moins d'un humain sur dix vivait en ville. Moins d'un humain sur dix. En 2007, c'était la moitié de la population mondiale qui, pour la première fois, est donc urbanisée, vit dans les villes. Et il ajoute... En 2050, selon les projections, 2/3 de la population mondiale habitera dans les villes. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on entend. Il n'y a pas une grande unanimité non plus de la part des universitaires. Il y a des gens qui sont un peu plus près des analyses, surtout que dans le monde que nous vivons, l'accès aux sources d'information est aisé et chacun peut vérifier avec les statistiques internationales, mais en France on a un outil remarquable qui est l'INSEE et qui permet de voir effectivement cette fameuse croissance urbaine. Alors évidemment, cette croissance urbaine, c'est l'inverse qui se produit. J'ai déjà parlé ici des pertes d'habitants que Paris, la ville phare de notre nation, a chaque année. On est à 14 000 habitants. Enfin, c'est vraiment une baisse très très importante de population, et on peut dire que ce phénomène des centres-villes est à peu près général sur le territoire. Alors de plus, cette perte de brute de population s'accompagne d'une perte d'activité économique. Donc ça, notre Pierre Vermeyrin en parle, et son propos n'est pas très clair. Mais enfin, bon, je reprends le mien. Donc il y a une perte d'activité économique, ce qui fait qu'il y a aussi une perte d'emploi. Et donc, il y a à la fois donc une perte des résidents et il y a à la fois une perte d'emploi. Alors, c'est compensé par quoi? Et le Vermeyrin en question dit à la fois, il tient un propos de tout s'urbanise et il y a une augmentation des villes, et puis il dit, il y a aussi une perte économique remplacée par le tourisme et remplacée par des espaces festifs. Alors, les derniers points sont vrais, mais s'ils remplacent la population à la fois résidente et à la fois, c'est-à-dire que les résidents sont remplacés par un système d'hôtellerie que l'on connaît aujourd'hui pour touristes, et avec Uber, etc., enfin, toutes les systèmes aujourd'hui relationnel, on peut dire, et de changement d'activité. Et on a donc aussi ce développement festif qui que l'on voit par exemple dans toutes les rues toulousaines et à peu près dans à peu près tous les quartiers des centres-villes historiques, c'est-à-dire sur un périmètre de quelques kilomètres carrés, c'est toujours très concentré. Donc il y a aujourd'hui des rues comme à Toulouse, la rue des Filatiers, qui étaient, alors sans parler des Filatiers, mais enfin il y avait jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps des commerces diversifiés, même si les artisans étaient partis, on peut dire, il y a une cinquantaine d'années. Mais là, maintenant, c'est unifié uniquement avec café-restaurant sur toute la longueur de ces rues. Bon, alors, je suis pas en train de décrier, de critiquer, c'est un phénomène qui est celui-là. Voilà. Alors, tout ce que l'on peut simplement dire, est-ce que c'est un phénomène naturel ou alors est-ce que c'est un phénomène artificiel? Et ça, bon, c'est peut-être un autre débat que nous prendrons un autre jour. Alors, je reviens donc à cette histoire de l'impasse de la métropolisation, et ce qui est quand même très important, c'est que un universitaire avec une grande visibilité, puisqu'en plus, c'est quelqu'un qui écrit des chroniques régulièrement, notamment dans Le Figaro, dans Le Quotidien, et ces chroniques portent souvent sur les sujets de société, et notamment sur l'architecture. Alors, il y en avait une qui avait eu un certain retentissement, qui était sur les hangars métalliques qui prolifèrent et en proliférant enlaidissent nos campagnes et nos villes. Donc, je crois que c'était il y a 2 ans, et donc dans cet article, il parle d'une dévastation de l'espace, des périphéries des villes. Bon, pour cela, on peut dire que c'est une évidence et qu'on ne va pas nier cette réalité. Par contre, l'analyse que l'on peut faire par rapport à cela va diverger. Alors lui, il accuse, alors là c'est vraiment très surprenant, les charpentes métalliques et de ce fait les personnes qui les construisent, qui seraient les charpentiers métalliques. Alors je ne sais pas quelle est la relation qu'il a pu avoir avec un charpentier métallique qui lui a volé son portefeuille, mais c'est quand même très surprenant. Parce que il décrit quelque chose qui est absolument ahurissant. Il dit les charpentiers métalliques, au contact des élus locaux, les démarchent assidûment. Et palliant l'architecte, l'aménageur, le paysagiste, le charpentier métallique et le maître d'œuvre qui obtient les permis de construire, faisant miroiter activité et emploi à des élus, souvent aux abois. Alors ça, c'est une invention totale. Les charpentiers métalliques font leur métier, et puis il faut dire une chose, c'est que les charpentes métalliques, vous ne les voyez pas, elles sont cachées, alors que les charpentes soient en bois, en métal, ou en béton, le problème n'est pas du tout un problème de la charpente. Alors vous avez peut-être l'habillage à l'extérieur avec des bardages métalliques, mais en fait c'est un problème qui n'est pas un problème urbanistique. Là c'est un problème de matériaux. Alors le problème qui existe, c'est qu'effectivement ces bâtiments sont posés sans aucune planification, et ce n'est pas la faute de celui qui construit le bâtiment. Alors, il est faux complètement dans ce raisonnement de dire que les charpentiers métalliques remplacent les maîtres d'œuvre pour déposer les permis de construire. C'est absolument faux, c'est illégal et ça n'existe pas. Donc ça, je ne comprends pas comment on peut raconter des choses pareilles qui ne sont basées sur aucune réalité. Puis de toute façon, les charpentiers métalliques ne démarchent pas les mairies et les charpentiers métalliques dans le processus de la construction. Il y a une demande, un client qui veut construire, il s'adresse à un architecte qui dessine le bâtiment et l'architecte appelle une entreprise qui peut être effectivement le charpentier métallique parce qu'effectivement les charpentiers métalliques et les habillages en métal pour ce type d'édifice ont des coûts très compétitifs, mais le processus n'est pas inversé. Et effectivement, il n'y a aucun démarchage des maires, puisqu'il faut que l'activité soit préalable, et les maires ne sont pas aux abois non plus. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui fait partie de ces des fake news, et je m'interroge sur à la fois ce qui est produit par les médias, souvent par facilité, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il s'agit là d'universitaires qui fabulent totalement et inventent des scénarios qui ne sont pas du tout véridiques. Alors, évidemment, si on trouve des boucs émissaires, on n'arrive pas. Alors, d'abord, ces accusations sont infondées, et puis deuxièmement, on ne va pas s'attaquer au vrai problème. Et le vrai problème, pour parler justement de l'urbanisation et de l'urbanisation des périphéries, c'est qu'en fait, l'accent est mis essentiellement sur les centres-villes, les législations, les réglementations sont très protectrices de ce, et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais enfin elles sont limitées sur un territoire. Et ce territoire, qui représente une infime partie du territoire national, contrairement à ce qu'on imagine, et une infime partie de la population de notre pays, eh bien, il va faire l'objet de toutes les attentions et au détriment, effectivement, de ce qui est autour. Alors, je vais reprendre le propos sur à la fois la politique on peut dire de la formation des élites par rapport à cela, et également vous parler d'une manière plus générale de cette urbanisation. On marque une pause musicale. Thank you.
should take,
if you should take
a train,
better you.
You get to where you're going in a hurry.
Hurry,
hurry, hurry, hurry. Now it's coming.
Better you go.
Can't you hear the rails will hum? Liotta, if you should miss the A train.
Professeur Pierre Vermerin, dont on vient de parler, reprend le concept de la France du périphérique. Enfin, il n'est pas le seul, puisque ce concept est repris par tout le monde. On sait que c'est un géographe qui s'appelle Christophe Guillouis qui a écrit des ouvrages qui ont été, on peut dire, avec un certain tirage et un certain succès, puisque ce terme est repris partout. Alors, j'en ai déjà parlé, mais je vais le reprendre. On est à la périphérie de quoi ? Donc, ça serait les centres-villes et tout ce qui serait périphérique. Et comme je vous disais, il y a une population française qui n'est pas du tout les 70% ou la moitié. Il y a à peu près 10% de la population au grand maximum. Ça veut dire 10% de la population française, ça ferait 6,5 millions d'habitants. Si on a Paris où il y a 2 millions, un peu plus, et puis Marseille et les centres-villes. Donc c'est quelque chose qui est facile à comptabiliser, mais encore faut-il avoir une définition exacte. Mais quand on parle d'urbain, on parle d'îlots urbains qui vont être réchauffés par le réchauffement climatique, donc il s'agit quand même de la forme, et cette forme, justement, a une population qui est, je vous dis, très limitée et, à mon sens, en deçà de 10%. Alors, le propos de la France périphérique, ce serait qu'effectivement, il y a la population des riches, les gagnants de la mondialisation qui habitent dans ces centres-villes denses, et puis tout autour, il y aurait une population de gueux qui va fournir les troupes de gilets jaunes et qui serait dans les perdants de la mondialisation, ce qui ferait quand même beaucoup de monde dans notre pays où on aurait beaucoup de perdants. Donc j'ai critiqué cette vision parce que les villes, et c'est en cohérence avec ce que l'on vient de dire sur l'économie, les villes ne sont plus justement les acteurs de l'économie, puisque elles sont maintenant des lieux résidentiels, effectivement, en partie, qui ont cela a remplacé justement les entrepôts, les activités, les artisans, les industries. Et donc tourisme et puis lieux festifs et aussi le tourisme qui est lié bien sûr à l'aménagement patrimonial. Donc tout cela montre bien que la richesse française n'a pas disparu, n'est pas liée là. Donc les sociétés, les usines, elles sont justement à l'extérieur de ces centres-villes. Donc c'est une absurdité de parler de cela. Et le territoire, il y a un maillage assez important dans notre pays, même si on peut regretter avec juste raison la désindustrialisation de notre pays au profit des pays émergents. Et on sait que c'est un phénomène qui a eu notamment de l'ampleur avec la crise du Covid, et on a vu la pénurie des masques, et on a vu justement ce problème de la désindustrialisation sur des choses qui sont peu importantes, et puis aussi sur des choses qui sont importantes. Donc les gagnants de la mondialisation des centres-villes, effectivement, c'est quelque chose qui est totalement faux, puisque les centres-villes sont surtout, en tout cas d'abord Paris, la concentration des médias. Effectivement, il y a les journaux, les maisons d'édition, télévision, radio, enfin toute l'information qui est concentrée. Il y a effectivement le pouvoir politique central, ce qui n'est pas rien, avec tout ce qui est afférent à cela. Mais ça, c'est une vue de l'esprit économique, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas une concentration d'activités économiques essentielles. Donc c'est quand même limité justement à ce qui est la loupe grossissante des médias. Alors, la France périphérique, que je ne vais pas avec une radio Esprit Occitanie développer ce propos qui tombe sous le sens et qui tombe sous, je veux dire, le bon sens que l'on peut voir avec les implantations industrielles dans notre région, qui sont diversifiées dans tous les secteurs, que ce soit pharmaceutique, le textile, l'habillement, etc. Bon, enfin, tout ça est assez ridicule de parler de ce désert français, suivant ce livre fameux de l'après-guerre, Paris et le désert français. Alors, ces caricatures ont la peau dure, mais l'origine, justement, pour revenir à notre histoire des entrepôts, vient que cette déformation de notre vision nationale et territoriale est particulièrement grave, parce que elle est celle des élites et de la formation des élites. Alors, je vais parler d'un exemple que je connais, c'est les écoles d'architecture pour lesquelles j'ai enseigné pendant 20 ans, et sans citer un exemple, les sujets que je prenais étaient justement au niveau architecture et aménagement, c'était les réaménagements des zones périphériques, entre guillemets, et d'avoir des propositions théoriques pour à la fois reconstituer développer aussi un aménagement harmonieux et densifié de ces lieux. Mais il faut dire que j'étais quasiment le seul, et on me regardait comme un ovni. Mais pourquoi ? Parce qu'à côté, les programmes, les projets qui sont demandés aux architectes pour les former, et aux urbanismes, c'est pareil, ben c'est des projets de centre-ville, d'aménagement urbain, et les bâtiments, et bien effectivement, ce sont des bâtiments publics. En premier lieu, ce sont les musées, comme si les musées, c'était le centre de l'activité française, quand on sait que 2/3 des visiteurs des musées, évidemment, mis à part la crise récente qu'on vient de subir, les 2/3, ce sont des visiteurs étrangers. Si vous voulez, dans les musées à Paris, c'est des Japonais, des Américains, on n'entend quasiment pas parler français. Et donc, c'est assez ridicule, parce que cette vision que l'on a de notre société, avec les musées en premier comme une nécessité, puis bon, des bâtiments publics qui sont du même type aussi, très culturels, bon voilà, théâtre, etc. Et comme je vous disais, effectivement, il y a un dédain profond, justement, dans la formation des architectes et des aménageurs. Et il faut dire aussi que personne ne planifie et ne dessine ses extérieurs. Donc, la faute, c'est qu'il n'y a pas de planification. C'est-à-dire que c'est fait en désordre. Donc, ce n'est pas le problème des bâtiments eux-mêmes. Alors, c'est vrai que ils sont pas particulièrement recherchés. Ce sont des boîtes, mais les boîtes bien arrangées, ça peut former de belles cités, des choses qui sont agréables, avec des espaces publics aménagés. Mais si personne n'impose des espaces publics, ne les dessine, et on peut dire que les acteurs essentiels, qu'ils soient les constructeurs ou les utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui ont fait construire ces bâtiments, ils préféreraient être dans quelque chose d'harmonieusement construit et s'insérer dans des planifications intelligentes, quitte à ce qui eux-mêmes y participent, que d'être posés n'importe comment avec au complet ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est un problème qui est un problème collectif, c'est un problème, à mon sens, qui est un problème d'abord de compréhension du phénomène que j'essaie de vous expliquer, un problème de formation des professionnels, de formation des élites. Alors effectivement, on va fermer l'ENA, mais enfin le problème, c'est qu'est-ce qu'on leur raconte aussi? Et si c'est des professeurs comme le monsieur dont je parle aujourd'hui, qui raconte ces choses qui sont totalement fausses, en faisant porter le chapeau à des malheureux charpentiers métalliques qui n'y sont pour rien, on est dans le délire total. Donc il y a des responsabilités, et la responsabilité aussi, elle est politique, mais la question aussi, est-ce que c'est le politique qui décide, ou est-ce que ce ne sont pas les technocrates de l'administration avec le pouvoir qu'ils ont. Alors là, nous touchons donc un problème majeur, un problème dont je parle assez régulièrement sur cette antenne, ce problème de la décision politique et qui est lié à l'aménagement et au quotidien, et donc il serait important qu'il y ait un débat public qui ne soit pas à la fois pris par uniquement l'écologie et les matériaux biosourcés qui fait qu'on dérive total sur les éléments essentiels du problème. Les éléments essentiels du problème, mais ils sont les activités diverses. Alors il y a les activités économiques, parce que c'est ce qui donne du travail aux gens et de la richesse à notre pays. Il y a aussi le logement, il y a la place des bâtiments publics, et puis il y a les liaisons qui sont les transports. Mais le problème des transports, qui effectivement est un problème qui est abordé, mais s'il n'est pas abordé avec le problème économique, avec une vision qui est une vision de la réalité et pas une sorte d'invention de ville qui serait qui tire l'économie par le haut, comme on entend dire par les économistes, mais de les remettre à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des portions de notre territoire qui ont comme caractéristique d'avoir été ces centres-villes des mémoires historiques, avec des bâtiments anciens qu'il faut préserver, mais des bâtiments anciens à préserver. Tout notre territoire, il y a 40 000 églises, il y a 40 000 châteaux, et sans parler de tout le patrimoine rural qui est aussi celui de l'habitat domestique. En fait, on est un pays qui est un pays magnifique, avec un patrimoine architectural, historique, conservé, qui fait effectivement que nous sommes, hors Covid, le premier pays visité du monde. Donc, s'il y a des entrées de ville avec des boîtes à chaussures, il faudrait qu'on ait une vision un peu claire des problèmes pour trouver des solutions. Et comme je vous le disais, les solutions, elles sont par une prise de la réalité des choses et pas des fantasmes, et puis aussi des prises de décision qui font que, on ne doit pas privilégier justement les centres-villes mais on doit aussi privilégier notre territoire national, et vous le savez, je n'emploierai pas surtout ce terme complètement faux de France périphérique. Je vous souhaite une bonne semaine.